Durant deux semaines, dans le 6-9 de France Inter, nous allons vous présenter des personnalités qui, chacune dans son domaine, le sport, tiens justement, l'éducation, l'environnement, les sciences, la culture, font progresser les mentalités, font avancer la recherche et nous ouvrent aussi un peu l'esprit. Aujourd'hui, nous accueillons un architecte, Nicolas Delon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des deux fondateurs d'un collectif qui s'appelle Encore Heureux et qui revendique une certaine sobriété architecturale, c'est-à-dire que vous avez conscience que les matériaux que vous utilisez sont en train de s'épuiser et vous défendez donc aujourd'hui une autre architecture, plus économe, plus frugale. Première question, Nicolas Delon, à quoi ressemble un bâtiment qui a été conçu frugalement? Est-ce que ça se voit esthétiquement à l'œil nu?
Alors on pourrait répondre en disant que les bâtiments qui ont été conçus depuis 2000 ans étaient dans une certaine frugalité. Mmh. Avant l'ère industrielle et l'ère du pétrole notamment, et de l'ère qui nous a permis de construire des tours immenses et des villes gigantesques, les bâtiments étaient conçus avec les matériaux qui étaient à proximité, à disposition, en fonction des territoires qui étaient proches de ces habitats et de ces villes.
Donc, à l'œil nu, ça se voit pas.
À l'œil nu, ça ne se voit pas. C'est ce qui a été ajouté à cette complexité constructive pendant les 100 dernières années qui ont fait cette transformation très forte de l'architecture.
Mais aujourd'hui, il y a des matériaux que vous utilisez, il y a des matériaux que vous n'utilisez plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur lesquels vous appuyez encore ?
L'enjeu principal pour l'architecture de demain, c'est la notion de matériaux biosourcés. Ce sont les seuls matériaux qui peuvent se renouveler. Donc ce sont soit les matériaux issus du règne végétal ou animal. Et donc ça peut être le bois, cela peut être la terre, cela peut être la pierre. En tout cas, des matériaux qui sont présents à l'état actuel de notre planète et qui ont la capacité de se renouveler.
Ça fait un peu le retour des Amish, comme dirait le président Macron, non ?
Eh bien justement, ce n'est pas ça, c'est là où c'est intéressant.
Parce alors expliquez-nous.
Que, en fait, il faut prendre conscience que nous sommes sur une planète de 8 milliards d'habitants et que l'enjeu c'est bien d'habiter, de loger, de rendre cette planète, de la poursuivre dans son habitabilité. Et donc ce rapport à la sobriété, il est aussi très fort de sens, de ce qu'il porte en lui. Parce qu'on se rend compte que les villes actuelles ou les habitats dans lesquels les gens qui nous écoutent habitent peut-être sont pas forcément plus adaptés. Ils ne s'en sentent pas forcément mieux dans des espaces qui ont été sur technologisés, si on peut le dire ainsi, qui ont été complexifiés. Et donc, ce n'est pas absolument pas un retour en arrière, mais c'est plutôt le fait d'être conscient des limites matérielles de la planète et de l'humanité.
Mais vous parlez d'éléments biosourcés, vous parlez de la terre et du bois. On ne peut pas faire des maisons en terre et en bois, on est d'accord?
Si, on peut absolument faire des maisons en terre. On peut même faire des maisons en terre crue. Il y a quasiment deux tiers de l'humanité qui, d'ailleurs, habite dans des bâtiments en terre. Donc, c'est des techniques qui, aujourd'hui, reviennent avec la technologie contemporaine. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les matériaux entre eux, mais il s'agit plutôt de considérer qu'il faut utiliser les bons matériaux au bon endroit, au bon moment. Et que par exemple, le béton est tellement précieux qu'il faut en prendre soin.
Du coup, est-ce que la mission que vous vous donnez est toujours la même? Est-ce que par exemple, l'objectif, c'est de décider, d'imaginer le monde du futur?
Ça, c'est le lot des concepteurs de bâtiments, des concepteurs de villes, c'est de se projeter. Et il faut savoir que l'architecture ou la fabrique de la ville sont des processus très lents. Il faut 10 ans pour faire un bâtiment, il faut 20-30 ans pour changer la forme d'une ville. Donc notre métier, tous les jours, c'est de vraiment d'imaginer ce qui va arriver. Et aujourd'hui, cette vision de progrès est perturbée par l'effondrement des écosystèmes, la crise climatique, la crise écologique. Et donc, nous devons faire face à ces nouvelles contraintes.
Mais avec vos éléments très primaires, j'ai envie de dire, vous arrivez à imaginer le futur. Ça vous dérange pas, en fait, cette dichotomie? C'est ça que je veux dire.
On fait constamment des allers-retours entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il peut être ou tel qu'il serait désirable qu'il soit.
Alors vous inventez et vous réalisez ce que vous appelez des lieux innovants, par exemple cette école qui va ouvrir je crois en janvier à Rennes. En quoi est-ce qu'il s'agit d'un lieu innovant? Ça veut dire quoi tout simplement?
Un lieu innovant que l'on peut aussi décrire comme un lieu infini, c'est un lieu qui va mixer, mélanger les usages. C'est-à-dire que dans cette école et dans l'hôtel Pasteur qui va ouvrir très prochainement à Rennes, vous avez à la fois une école maternelle dans le premier niveau et vous allez avoir un lieu culturel ou un tiers-lieu dans les niveaux supérieurs. C'est une manière totalement différente de penser les bâtiments publics, en considérant qu'il ne faut pas spécialiser les bâtiments, mais c'est par la rencontre des publics, la rencontre des usages, la rencontre des temps d'occupation, car il y a énormément de bâtiments qui sont utilisés qu'une toute petite partie de l'année ou de la journée, et on n'a plus les moyens en fait d'avoir autant de bâtiments vides. C'est plus possible.
Et donc du coup, vous dites que vous ne construisez plus des bâtiments, mais vous construisez des lieux, c'est ça? Expliquez-nous la nuance.
Absolument. La différence entre un bâtiment et un lieu, le bâtiment, on pourrait dire que c'est le contenant, et le lieu, c'est le contenant et le contenu. Donc ça va être de mettre en œuvre des stratégies, des protocoles, des dispositifs pour s'assurer que c'est bien ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments qui compte et pas uniquement l'enveloppe ou le fait de poser un beau bâtiment entre guillemets pour le plaisir de ses concepteurs.
Alors cette idée, cette conception de l'architecture, j'ai envie de dire qu'elle vous vient tout de suite en 2001 quand vous créez votre collectif Encore Heureux. Vous avez la vingtaine, vous sortez tout juste de l'école. Comment est-ce que cela a mûri chez vous si vite ? D'où ça vient tout ça ?
Alors ça vient de plusieurs endroits, ça vient de d'avoir aussi grandi dans un environnement plutôt campagnard dans le sud-ouest de la France et de tout d'un coup se retrouver projeté dans ces métropoles qui aujourd'hui montrent bien leurs limites et avoir une intuition assez forte que tout ne va pas si bien et que tout ne tourne pas si rond. Et
donc, c'est quoi, c'est l'arrivée à Paris qui nous
fait cette impression-là ? C'est l'arrivée dans une très grande ville où tout d'un coup on voit que les surfaces sont réduites, que la part d'espace vert dans Paris est une des plus réduites au monde. On est à 6 mètres carrés par habitant alors que l'OMS dit qu'il faut être au-dessus de 10. Et donc c'est peut-être une somme de perceptions comme ça qui nous a fait prendre le temps, ne pas nous précipiter dans la construction de bâtiments mais plutôt réfléchir à l'environnement dans lequel on avait envie de construire.
Combien il y a d'architectes aujourd'hui qui se sentent concernés comme vous par l'épuisement des matériaux ?
Alors on va dire qu'il y en a de plus en plus, notamment dans les très jeunes générations, donc c'est une très grande source d'espoir, qu'il y a toute une... les grands architectes ont été sur d'autres sujets de leur temps. Je pense qu'il faut aussi considérer que chaque époque a ses défis.
Donc c'est vraiment générationnel, ça que vous me dites ?
C'est très générationnel, il y a quelques personnes qui font des ponts, mais c'est quand même très générationnel.
Et du coup, est-ce que c'est une matière, alors j'appelle ça une matière, une discipline, je ne sais pas, mais qui est enseignée aujourd'hui dans les écoles d'architecture ?
De la même manière, c'est une matière qui est en train d'émerger un peu aussi de la volonté même des étudiants, comme par exemple les jeunes qui sont engagés sur les questions climatiques. On voit des architectes qui s'engagent sur l'économie de ressources, le réemploi des matériaux, l'économie de moyens, une autre façon de faire architecture.
Mais on n'apprend pas à faire mieux avec moins aujourd'hui dans des écoles d'architecture, oui ou non ?
C'est en train d'arriver, mais c'est encore, on va dire, il y a toujours un décalage aussi entre la prise de conscience et la mise en application de cette prise de conscience. Et donc là, on est vraiment dans un entre-deux.
Entre les deux générations, il y a une bataille qui se joue, qui se crée, vous vous comprenez ou vraiment vous vivez dans deux mondes clos, en silo ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des récits qui sont très différents, il y a des visions qui sont différentes, il y a des conversions qui sont opérées par des gens aussi plus âgés qui tout d'un coup se rendent compte que voilà, le monde change et sans mettre tout à la poubelle, ils doivent aussi s'y adapter. Donc je pense que c'est très lié à chaque architecte, qu'il soit.
Mais votre vision, Nicolas Delon, et ce sera ma dernière question, c'est une vision d'architecture très politique quand même, non ? C'est assez militant, on est d'accord ?
C'est militant, en tout cas dans le sens, c'est la volonté d'avoir conscience de là où on est, à quel moment, dans quel monde, d'une à la fois très grande complexité et en même temps d'une très grande cohérence, nous allons poursuivre l'aventure humaine. Et l'enjeu, c'est vraiment l'habitabilité du monde. Est-ce que nous souhaitons que le monde reste habitable ou pas ?
Merci beaucoup et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.